avec la caresse gelée de la nuit. Très tard, ou tôt, qui te fit émerger une fois encore, tu t'es levé. Tu as vu ton corps courir comme un chiffon peureux, embrassant les arbres et les tachons, comme si tu leur disais « Au revoir ». Tu as vu tes pieds descendre la montagne, se laver dans les flaques et se griffer dans l'argile, jusqu'à se perdre dans le bois. Ronronnement dans l'avenue. C'est par là, ou par là, ou par là. Tu cours, une fois de plus. Tu ne sens plus le froid, ni la douleur, ni tes dents qui se mordent les dents. Tu as seulement du mal à voir parce qu'il y a quelque chose de trouble dans tes yeux, collants et visqueux, qui te rend encore plus confuse. Tu marches, mais tu perds pied. Tu sens qu'on te soulève. Tu entends des pas pressés, la sonnerie d'un téléphone portable. La caresse soyeuse de quelque chose de blanc, peut-être la nuit, peut-être seulement. Mais non, le matin et son chant de prisme rompent l'obscurité. Tu sens le ciel dans ta chair, dans tes yeux fermés, dans ta peau. Tu sens comment ton front s'ouvre, comme tu t'effaces. Le ciel dans la peau, c'est la seule chose qui te reste. Après ça, tu ne veux plus rien savoir. Tu veux parler et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus.
Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te manden. Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista. Ya deja de pensar que mejor es que mejor vista. Ya deja las revistas, lo que tu vida controla. Porque naciste libre y te hiciste esclava de la moda. Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda. Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona, deja de ser solo la novia de... Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser. Supera las expectativas que de ti creen. Que de veras merezcas el respeto que te den. No te preguntes por qué siendo más. El mundo es del que si este mundo es machista es porque nosotras también. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser.
Bonjour et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, comme chaque vendredi de 13h à 14h sur Radio Canu. Donc aujourd'hui, on a une équipe que je vais présenter tout de suite. Alors tout d'abord, Anaïs Sintas.
Bonjour.
Odile Lauréat.
Bonjour.
Et Clara Fustier pour la chronique. Donc voilà, aujourd'hui on échange nos rôles. D'habitude, c'est toi Anaïs qui présente l'émission.
Oui, ça fait bizarre d'être à cette place d'ailleurs.
Voilà, donc aujourd'hui je prends les rênes pour donc parler de ton prochain projet, Le ciel dans la peau. Vous êtes actuellement en répétition au TNP jusqu'au 5 février. Et donc, avec Odile Lauréat qui est comédienne dans ce projet, vous allez nous présenter un petit peu ce projet. En partant peut-être de l'auteur.
Bah oui, déjà dire que c'est l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est donc un extrait du ciel dans la peau de Edgar Chias. C'est un texte qu'il a écrit en 2003-2004 et c'est un texte qui parle de la question des féminicides au Mexique. Mais avant d'aller plus loin dans qu'est-ce que c'est que les féminicides, on va vous parler déjà du texte qui est en soi une aventure à découvrir puisque c'est un texte qui est entièrement pas écrit à la deuxième personne ou à la troisième personne. Et donc, mais c'est une pièce de théâtre, c'est pas un roman qui serait adapté, c'est vraiment une pièce narrative, une narraturgie, on pourrait dire. Et la particularité de cette écriture, nous a poussé au plateau à faire des choix radicaux. Peut-être qu'on peut lire un petit extrait d'une introduction à une des premières éditions du Ciel dans la peau.
Oui, en fait, c'est, en tout cas, au Mexique, ça a été une grande première et ça, au début, ça a été mal reçu. C'est-à-dire cette espèce de narraturgie dans laquelle il y a un narrateur omniprésent et que c'est de là qu'Edgar Tias part pour raconter son histoire. Au début, au Mexique, les gens disaient, mais c'est pas du théâtre. C'est une narration, mais c'est pas du théâtre. Ça, on fait pas du théâtre comme ça. Et une fois que la pièce a été montée et que le public a bien rentré dedans, que la mise en scène mettait en valeur cette façon d'écrire le théâtre et de transmettre le sujet, la critique a revisité ses opinions. Et du coup, Edgar Tias a commencé à vraiment défendre sa recherche qui vient d'autres pièces, Téléphonemas. Déjà là-dedans, il cherchait ce rôle du narrateur, cette place dans la voix de l'écriture du narrateur. Et là, avec Le ciel dans la peau, ça décolle, quoi.
Pour expliquer un peu plus en détail, il écrit en sous-titre que cette pièce, c'est une rhapsodie pour la scène. Une rhapsodie, ça vient du mot rhapsode. Le rhapsode, c'est le conteur ancestral qui va raconter des histoires de l'oralité. Enfin, par exemple, dans l'Iliade et l'Odyssée, c'était des rhapsodes qui passaient de village en village et qui racontaient ces histoires qui sont transmises comme ça au fil du temps. Et du coup, tout simplement, c'est renouer avec le rôle du conte. Et comment, en fait, au théâtre, on peut raconter? Comment on raconte une histoire au théâtre? Et comment un conteur, ben, il a sa place au théâtre aussi?
Et cette place du tu, de parler tout le temps à la deuxième personne, tu parles, tu marches, tu regardes, c'est-à-dire on gâche directement la position du spectateur et mélange réalité et fiction constamment. Donc le spectateur n'est pas passif. Et c'est ça qui voulait détonner Edgar avec son écriture. Et j'estime qu'il réussit son coup avec Le ciel dans la peau.
Et donc cette pièce est construite comment finalement? Parce qu'on parle de pièces narratives, mais l'histoire, comment elle se déroule, comment elle se raconte justement, qu'est-ce qui se... Peut-être pas décrire l'action, mais comment se déroule la narration, justement?
Alors déjà, c'est écrit par tableaux, des tableaux qui, a priori, à première lecture, on voit pas forcément le sens les uns avec les autres. Mais si on voit un fil qui pourrait se dérouler de A à Z, on suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Esther et qui est en train de mourir. Donc elle est dans un hôpital, elle est en train de mourir des suites d'une agression, des suites d'un viol. Et si l'histoire, on va dire, au présent se situe là, l'intégralité du texte, ce sont des sortes de flashbacks dans la vie d'Esther, dans les jours qui précèdent en fait cette agression, et qui va donc du coup nous dévoiler toute une série d'actions qu'elle a faites, et notamment, et c'est ça qui est vraiment dans l'histoire du conteur, notamment en fait elle lit elle-même une histoire dans un bus. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est suivie par ses agresseurs, mais elle nous raconte l'histoire d'une autre fille qui vit dans un autre temps, au temps du roi Salomon, et auquel il va arriver aussi pas mal d'aventures. Donc cette histoire est écrite à la troisième personne, et ça s'appelle l'histoire du personnage principal. Donc c'est un peu comme Scheherazade qui raconte les histoires. Il y a une urgence au plateau à raconter ces histoires, parce que si on ne raconte pas ces histoires, elle meurt, tout simplement. C'est la mort. Et tout ça, c'est l'histoire de ça raconte en fait l'histoire de pas beaucoup de changements dans la condition féminine qui au Mexique comme partout dans le monde n'a pas beaucoup évolué.
Donc, du temps du roi Salomon, que c'est l'histoire qu'Esther lit dans le bus, jusqu'au présent d'Esther, l'histoire n'a pas trop changé. Donc, et au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture de ce qu'Esther est en train de découvrir de personnage principal, Edgar mélange aussi des éléments et on sait, au début c'est très clair que c'est autant de roi Salomon que le personnage principal vit, et plus ça avance, plus ça mélange des éléments de personnages qu'on se demande de quel temps ils sont. Donc c'est une rhapsodie parce qu'il y a un tas de voix différentes de personnages. Tu peux monter la pièce avec 1, 2, 3, 4, 5 comédiens. Et c'est parce que c'est une rhapsodie, voilà.
Oui, donc il y a plusieurs personnages. C'est par contre, elle raconte aussi plusieurs histoires qui sont en parallèle dans le temps, on va dire, temporalité différente. Mais moi, je vois une seule comédienne, donc vous avez un parti pris là-dessus.
Oui.
Peut-être que vous pouvez expliquer comment vous traduisez tous ces personnages avec toi, Odile, en jeu.
Du coup, le parti pris pour moi, il était évident. C'était que d'après ma lecture, toute l'histoire, toute l'action se situe dans l'espace mental de la jeune fille. Et du coup, ça me paraissait du coup évident que c'était elle, à travers ses souvenirs déformés par l'agonie, c'était elle qui refaisait tous ses souvenirs et qui du coup devait assumer au plateau tous les personnages, toutes les actions, toutes les scènes. Donc c'est un peu... Certes, il y a plein de mises en scène du ciel dans la peau, il y a beaucoup de...
Au Mexique,
de comédiens. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de mettre la comédienne au centre de l'action et que ce qui se passe, c'est dans sa tête. Tout se passe dans sa tête.
Elle est en train de mourir. Et donc, dans ces moments de délire, d'agonie, elle va se souvenir. Voilà.
Donc, en fait, vous situez la pièce au départ dans l'hôpital, mais très vite, on part dans l'espace mental de cette fille qui est en train de mourir. Et donc l'espace change. Est-ce que c'est la transformation du corps de la comédienne qui change, ou est-ce que c'est l'entièreté? Comment ça se passe alors pour l'instant?
Déjà sur le plateau, on voit plusieurs choses. Enfin, on peut voir un favela, on peut voir un hôpital, on peut voir le palais d'un roi, et puis on peut voir un désert. Désert dans lequel on retrouve malheureusement bien trop de corps, puisque on l'a dit au début de l'émission, la pièce évoque la question des féminicides au Mexique, mais dans toute l'Amérique latine. Et du coup, c'est un espace qui est multiforme. Et cette question des féminicides, elle traverse toute la pièce. Et peut-être qu'on va dire quelques mots sur ce que c'est que ces féminicides, parce que tout le monde n'est pas
au courant. C'est un mot pas courant, c'est un mot qu'on utilise que rarement. Moi, je l'ai entendu pour la première fois il y a peut-être 2 semaines. Le féminicide, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça comporte? Peut-être vous avez des données, des choses à nous dire là-dessus?
Donc, c'est le féminicide, c'est comme on définit de façon légale toute violence faite à une femme parce que elle est femme. C'est toute violence par laquelle elle va mourir ou être violée, ou toute agression qui a été subie parce que elle est femme. Voilà.
Du coup, les chiffres ont été escamotés, ont été cachés pendant des années et des années. Mais il se trouve que depuis le milieu des années 90, il y a plus de 10 000 femmes qui ont été assassinées et violées. Mais on a des chiffres un peu plus précis à vous communiquer, peut-être.
Par exemple, juste les 2 dernières années, on peut vous dire qu'au Mexique, il y a eu en 2 ans 4 687 femmes
qui qu'on était tués.
Qu'on était tués, torturés. Parce que, aussi, il faut dire que toutes les femmes qu'on a retrouvées, le féminicide commence à montrer ses traces à Ciudad Juárez. Et à Ciudad Juárez, qu'est-ce qu'on retrouve ? Des corps avec des femmes mutilées, avec les seins coupés, avec des couteaux, coups de couteau, une culotte au fond de la gorge, et des signes très caractéristiques des viols et des tortures dans la plupart des corps. Ce sont des filles entre 15 et 25 ans, la plupart à Ciudad Juárez, en tout cas. Ce sont des filles qui travaillent dans les usines clés en main, qui viennent de tout le pays, parce que l'usine clé en main, c'est une des possibilités pour garder un peu d'argent, et puis aller vers le rêve américain, vers les États-Unis. Donc ce sont des filles que, entre le moment où elles manquent, on trouve son corps, peut-être les familles, elles ne se rendent pas compte que sa fille a disparu parce qu'ils sont à l'autre bout des milliers de kilomètres du pays. Et que c'est qu'ils se rendent compte que la fille n'est plus là parce qu'elle n'envoie plus d'argent, par exemple. Et donc elles se disent, elle est où, et elle est déjà morte depuis longtemps et jetée dans le désert en morceaux.
C'est de la disparition, du massacre et de la disparition de ces corps, de ces gens, sans trace.
Oui.
Et donc ce chiffre, au fond, il est significatif, mais on peut l'extrapoler peut-être.
Oui. En fait, ça commence là, à Ciudad Juárez, mais maintenant c'est partout dans le pays et partout dans l'Amérique centrale, c'est-à-dire Guatemala, Belize, Salvador, qu'on retrouve la même violence aux femmes avec des signes caractéristiques par région. Donc il y a plusieurs tendances pour croire que c'est le crime organisé aussi, que pour passer des preuves et rentrer dans les organisations criminelles, beaucoup le narcotrafic, doivent passer des preuves, et ces preuves incluent violer, torturer et laisser des traces très spécifiques dans les corps. Ça, c'est une des théories, mais même avant qu'on soit envahi par les crimes organisés, et même avant ces 15-18 ans de meurtres aux femmes, la violence contre les femmes et nous a accompagnés, est présente dans la culture, et on pourrait parler là du Mexique longtemps. Mais on a entendu qu'en Inde, une femme s'est fait violer dans un bus, comme dans notre histoire. Et puis, on peut parler des chiffres, si vous voulez, compter ne compte pas, mais des chiffres en France, de comment les femmes sont violées et tuées au sein d'un foyer aussi. Frappées, oui, voilà.
C'est vrai que du coup, un peu la conclusion de ce spectacle et aussi du traitement qu'on espère un peu faire passer, c'est que il s'agit pas de dire à regarder il se passe ça que au Mexique, mais dire que la violence faite aux femmes, elle est universelle. Malheureusement, en France par exemple, il y a 75 000 viols par an, ça fait une moyenne de 250 par jour, donc c'est énorme. Bien sûr, on peut pas comparer dans le sens où il y a pas de torture, mutilation et de disparition comme au Mexique, et que il est grand temps d'alerter l'opinion sur cette question-là, mais aussi de dire que c'est partout dans le monde qu'il y a ce problème.
Et c'est pas un problème spécifique au Mexique, c'est un problème qui existe et qui est aussi chez nous, quoi, c'est clair. Et donc cette pièce, elle a, juste avant qu'on avance, elle a été déjà montée en France ou...
Alors cette pièce, en fait, elle a été primée et sélectionnée au palmarès 2010 du Centre National du Théâtre dans une traduction de Boris Schumann. Et elle a été éditée aux éditions du Miroir qui fume à Paris.
Donc la pièce en espagnol 2003-2004, et elle est éditée en France en 2008. Elle reçoit le prix en 2010 par sa traduction par le CNT. Pour le CNT.
Et je ne pense pas qu'elle a été mise en scène. Il y a eu une lecture à la Mousson d'été. Et puis... mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Bah, depuis 2 ans, on est en chantier sur ce spectacle pour une création, 2013-2014.
D'accord.
La reine del sur, traficante muy famosa. Pues mira nada más con la cancioncita que me sales ahora, Ramiro.
Pues es en serio. Tú nada más dime, ponme un reto, dime qué es lo más importante que necesites ahorita. A ver si puedo o no ser hijo de una tuya.
¿Ah, sí? ¿Quieres un reto? Ahí te va uno. Te quedas calladito, ¿eh? Porque yo tengo una carrera política que cuidar y nadie se puede enterar de esto. ¿Entendiste? Y cuando digo nadie, pues nadie.
Calladito. Lo voy a decir, tío, como siempre, para que nadie se entere de nada. Entiendo que un político de tu talla, pues, no puede tener un hijo regado por ahí, ¿no? Y pues que me digas, hijo, cuando tú lo decidas. Yo estoy listo.
Nous revoilà sur le théâtre de la Gamelle. Et alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Anaïs Sintas ?
Donc là, c'était un telenovelas. Parce que du coup, sur la mise en espace au plateau, en fait, il y a une énorme télévision sur la création du ciel dans la peau. Et puis, je vais vous dire un petit peu pourquoi. C'est déjà pour faire un peu la jeunesse de la création. Ce spectacle, le ciel dans la peau, c'est une commande du collectif d'artistes, l'organisation, enfin, qui me l'a commandé en tant que mise en scène, pas en tant qu'écriture, hein, je parle vraiment du spectacle. Ils me l'ont commandé à l'occasion du festival Echo en Mérico, qui était une manifestation artistique, culturelle, autour de la dramaturgie contemporaine mexicaine, pendant un mois en 2011. Et donc à l'époque, je ne connaissais pas Odile, et il m'a été proposé de travailler avec elle sur ce projet. Et j'ai souhaité en fait mettre déjà à l'époque en avant des telenovelas qui passaient en fait en fond de scène pendant que le spectacle jouait. C'était tout simplement une mise en abîme de pendant qu'on abrutit la population avec des séries toujours les mêmes. Bah, y a des milliers de victimes de viols et les familles n'arrivent pas à obtenir justice parce qu'il y a une telle corruption et une telle accointance entre les narcos et le pouvoir que de toute façon il n'y a rien qui est fait pour empêcher ce phénomène. Et puis en fait quand on a repris la création là très récemment depuis mai 2012 et puis là plus sérieusement on va dire depuis cette semaine, et ben depuis il est arrivé au pouvoir le nouveau président Peña Nieto.
Enrique Peña Nieto. Le 1er décembre a pris possession.
Et alors, pourquoi est-ce que ça prend une autre résonance, cette question des telenovelas ? C'est pourquoi, du coup, ça prend encore plus de sens pour moi qu'il soit présent au plateau pendant ce texte ? C'est qu'il a un peu gagné les élections grâce aux médias. C'est un peu notre Berlusconi version Mexique. Et c'est la chaîne nationale Televista qui l'a fait monter.
Et ce travail, il se fait depuis des années et des années de bourrage de crâne où on le voit en train de faire cette action. On le voyait à la télévision tout le temps alors que les autres candidats...
C'est de la mise en scène, la mise en scène de candidats,
oui,
par les médias.
Mais que un candidat, le candidat du Parti révolutionnaire institutionnel qu'on a eu 70 ans au pouvoir. Donc c'est une grande démocratie.
Voilà. Oui, il est tellement omniprésent que même il s'est marié avec une star de telenovelas. Donc c'est
parce que ça fait partie du plein médiatique et donc cette femme est une grande star de telenovelas au Mexique et les gens quand on les interviewait et on disait qu'est-ce que vous pensez, je suis très contente parce que Peña Nieto va se marier avec la Gaviota et la Gaviota c'est le nom d'un personnage que la jouait. Donc c'est la preuve de à quel point fiction et réalité étaient déjà mélangées dans l'inconscient collectif de la plupart de la population, que beaucoup ne vont pas à l'école, qu'il y a un grand nombre qui sont analphabètes, mais qui ont la télé. Ils peuvent vivre dans des maisons en carton, il y a la télé, et qu'est-ce qu'ils voyaient à la télé, même dans les coins les plus éloignés de la nation ? Peña Nieto et la Gaviota. Alors, quand les gens défendent cette théorie de que oui, il a gagné les élections, oui, on a voté pour lui, il faut aller plus loin et se demander comment, dans quelles circonstances, dans quelles situations stratégiques, on a voté pour cet homme, quoi.
Et la jeunesse mexicaine, à l'heure d'aujourd'hui, elle se bat vraiment farouchement contre l'illégitimité de la prise de possession du pouvoir de Peña Nieto, même si ça a été tout à fait démocratiquement, avec plein de guillemets, par les urnes. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle Yo Soy 132, je le dis
Yo
à la française.
Yo Soy 132.
Nous sommes 132. Et qui avant tout dénonce le massacre qui a été perpétué sous les ordres de Peña Nieto quand il était
gouverneur de l'Estado de México.
Ouais, en 2006, les 3 et 4 mai 2006, il y a eu un massacre en fait à Atenco, qui est une ville
de cet état.
Et il y a eu des viols organisés par la police
et des femmes aussi.
Ouais. Des viols des femmes de militantes ou de militantes elles-mêmes, de manière...
Utilisées comme représailles.
Oui, comme représailles, en fait. Alors,
ces femmes étant identifiées en tant que militantes, on a été torturées et violées avec des systèmes identifiables par des pays en dictature. C'est-à-dire violées sous un tas de corps des gens qui agonisaient, et sur ce tas de corps, on mettait le corps de la femme à la fin d'un bus aussi, étonnamment, et on la violait, on la torturait, et puis elles s'en étaient enfermées, et c'est tout un comité de femmes militantes qui se battent pour sa justice, en demandant justice aussi.
La jeunesse étudiante en fait mexicaine aujourd'hui, elle dénonce ce massacre, elle exige la vérité sur ce massacre.
Ils exigent aussi la liberté d'expression dans les médias, c'est-à-dire qu'il y a... Parce qu'à présent, au Mexique, il y a un monopolio, et ce monopolio televisivo est maintenant protégé par la loi. Il y a des lois qui sont changées, et maintenant, c'est concentré d'informations que... Avec deux televisoras, les autres, elles se battent comme ils peuvent pour avoir des antennes de visibilité dans la télévision ouverte. Tout ça a été pensé et légalisé. Donc le mouvement 132, un mouvement étudiant, demande aussi de réétudier cette loi et de relégaliser autrement, réorganiser autrement la liberté des médias, quoi.
Parce que du coup, là, les élections, elles ont été... Enfin, massivement, on a voté pour.
Oui, et on a voté vraiment.
Il y a peu d'opposition
visible, non ?
On
le met pas en doute. Ce qui met en doute, entre autres, ce mouvement 132, c'est dans quelles conditions les citoyens ont voté.
Avec quelle information et qui a voté ? Oui, c'est ça. Quelle carte il avait en main pour prendre une décision ? Et l'aspect de la télévision qui prend le pouvoir, qui donne le pouvoir aux politiques, et les politiques qui usent ce star system pour exister, notamment avec cette dame, cette actrice qui s'est mariée avec ce président.
Sachant que le pays vit la terreur du narcotrafic, la peur de kidnappes, que c'est un business aussi, les kidnappes professionnels, la terreur du narco, donc la population vit dans la peur. Ça, c'est un autre élément pour lequel on doit se questionner dans quelle situation les gens ont été allés aux urnes. Quoi.
Donc là, c'est vrai qu'on a fait une petite parenthèse sur l'actualité. Et même si ça, c'est pas... Enfin, la question là, de Peña Nieto et des massacres, c'est pas présent dans le texte d'Edgar Chias. Il y a quand même toutes ces thématiques qui sont abordées. Donc la peur, la violence, les narcotrafics, les féminicides.
La haine aux femmes.
La haine, et puis toutes les petites mesquineries du quotidien.
Utilizado por toda la gente, la vida está cada día más cabrón.
Laid. Tu es laid comme il est laid de frapper Dieu. Feo como pegarle a Dios, cabrón. De cracher sur un enfant ou de le laisser mourir de faim. D'écraser une souris avec la semelle rugueuse de tes chaussures les plus neuves. Ça n'a pas l'air grave, mais ça fait mal. Ça fait très mal. Une espèce de handicap fonctionnel où tu sers pour servir, rien de plus. Si ton sourire n'est pas harmonieux, ça va pas. Si tu es trop petit, ça va pas non plus. Si tu es gros ou maigre, ça va pas. Bah, ça va pas. Ne pas être mince ou blond ou à la mode, c'est être laid. Être laid, c'est presque aussi mal et aussi triste qu'être noir en Allemagne, arabe en Espagne ou indien au Mexique. Presque aussi mal qu'être pauvre dans n'importe quel endroit du monde. Tu vaux rien. Mais être laid, c'est pire parce que si tu es noir, arabe ou indien, tu as toujours la possibilité de ne pas sombrer dans la pire des amertumes. Si tu es beau, t'es presque noir, presque arabe ou presque indien. Mais c'est vrai! Si on n'est pas trop manche et pas trop pauvre, on a toujours la consolation de la rue et de la prostitution. Il y aura toujours, que tu sois sale ou propre, quelqu'un qui aura envie de tes fesses. Ah, si ta petite figure n'a pas été piétinée par un cheval. Non. Quand tu allais, t'en chies. Apparemment, il ne se passe rien. On ne croirait pas qu'on fait du mal à quelqu'un en lui disant qu'il est laid. Mais les rames du métro ne pensent pas pareil. Elles qui reçoivent dans leurs bras le leftote suicidaire. Des millions d'insomniaques se jettent sur la mer stimulant des téléachats nocturnes pour caresser l'idée de ne plus être ce qu'ils sont. Une horde de déprimés. Être laid. Une autre manière de nommer le drame national. Le laid est un clandestin né, un non-conformiste résigné, une cicatrice ambulante. Un laid par le temps qui court ou tout entre par les yeux, où tout est image et que l'image devient plus importante que la vie même. C'est un attentat contre l'ordre. C'est la revendication de la différence dans l'ère de la production de l'identique. Des séries massives de clonages, des mêmes choses, même sans l'original. C'est une petite ride dans la peau grasse et névrosée du monde. Un cri subversif qui crie « vivons », qui dit « vivons », qui clame « vivons ».
Là, c'est encore un autre extrait qu'on vient d'entendre, « Du ciel dans la peau ». Donc, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, c'est différents tableaux dont on doit situer où est-ce que ça se situe, qui le dit, pourquoi c'est dit, etc. Et il y a cette histoire du personnage principal qui est donc la jeune fille, une autre jeune fille dont Esther nous raconte l'histoire quand elle lit dans le bus. Et cette jeune fille est laide et elle souffre beaucoup parce que elle correspond pas au canon défini de la beauté dominante. Et du coup, elle subit plein de vexations, de mesquineries à longueur de journée. Et elle se réfugie dans la lecture et dans l'écriture. Et la conclusion est vraiment dramatique parce que après qu'elle ait été vendue de force dans un harem.
Pour le roi.
Ouais, le harem du roi auprès de 879 autres concubines et épouses. Elle va écrire un livre formidable qui va être attribué au bon roi sage. C'est-à-dire qu'elle va faire
le travail d'écriture
et c'est pas elle qui est reconnue. Donc c'est un peu c'est plein de petites histoires entremêlées dans les histoires avec toujours en fait beaucoup d'humiliation, de frustration, de petites choses où on sent quand même le vécu derrière par rapport au système.
Et donc, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, puisque avant, on a abordé le thème du féminicide. Là, ce texte, c'est les canons de beauté, ainsi que le sexisme, de manière plus générale. Est-ce qu'il y a encore aussi d'autres thèmes, peut-être, qui sont abordés dans cette pièce?
Bon, il y a la misogynie, le machisme, la violence contre les femmes, les canons de beauté comme violence à tout un peuple, parce que depuis qu'on a... On a été colonisé. Plus tu ressembles à un Indien au Mexique, plus moins t'es beau, moins t'es considéré comme quelqu'un de beau. Si tu ressembles à un Européen, un Espagnol ou à un Américain de nos jours, eh ben t'es beau, non? Donc ça c'est un des sujets. Quoi d'autre, Anaïs?
Il y a la question de la pauvreté qui est abordée pas mal. Dans le texte du Sicario. Et oui,
Tous ces thèmes donc sont traités par Edgar Chias, l'auteur. Et comment celui-ci est accepté au sein de la communauté au Mexique, au sein des dirigeants? Comment ça peut se passer ce genre
de discours?
Coup de gueule, de discours?
Ça va, je vais dire quelque chose de triste, mais comme il n'y a pas un paquet de gens qui vont au théâtre. Alors, cette pièce a eu un grand succès au théâtre La Capilla, monté par Mahalat, mais c'est un nombre très restreint qui voit ce genre de rendus artistiques. Ça a été un succès dans ce milieu, dans les gens qui ont pu le voir. Le théâtre était plein. Edgar Chias est un des dramaturges les plus reconnus de sa génération. Mais ça ne bouge pas de masse, soyons sincères. Je vais vous dire combien ne savent même pas lire. Donc, je pense qu'on ne représente pas un danger pour l'État, les artistes, parce qu'il y a tellement peu de gens par rapport à tout ce qui sont collés à la télé, par exemple.
Il y a 120 millions d'habitants et le pourcentage de la culture, en gros, l'accès à la culture est faible.
Oui,
comme en France aujourd'hui, on a beau tous galvaniser de mots et tout, et faire du théâtre engagé, si on sort pas de notre cercle habituel et si on va pas à la rencontre du public, que ce soit dans les quartiers, que ce soit en ruralité, que ce soit
un vrai public, pas un public donc de professionnels ou de gens avertis, quoi.
Voilà, l'idée c'est que de toute façon on sera pertinent et on touchera en botte quand on rencontrera le public, que ça touchera vraiment et que ça fera vraiment avancer. C'est peut-être un grand mot, peut-être c'est un peu prétentieux, mais du moins que ça touchera vraiment.
D'accord. Et donc, en parlant de public, j'imagine donc ce spectacle va se jouer devant du public. Donc, peut-être que j'annonce les dates donc de ce spectacle. Les 14 et 15 février prochains, vous pouvez les retrouver dans le 18e à Paris, à 19h30, au Lavoir Moderne parisien.
Ouais, qui est un lieu en résistance.
Voilà. Donc, on a été invité par Catherine Fromont, c'est une artiste performeur qui écrit ses propres textes, qui joue ses textes, et elle nous a invité à partager la soirée dans un désir aussi de mutualiser de mutualiser les forces, de mutualiser les envies et d'aller partager ces deux soirées. Voilà.
Et c'est une artiste là qui va faire une performance sur un peintre, Jérôme Bosch.
Le lapin aux oreilles de cactus. Donc, Le ciel dans la peau se joue à 19h30 et Les lapins aux oreilles de cactus de Catherine Fromont à 21h.
D'accord, donc on peut en une soirée suivre comme ça un théâtre engagé sur les questions féminines au Mexique, mais qui touchent la France aussi, quoi.
Bien sûr.
Et le Lavoir Moderne parisien, c'est un lieu qui a accueilli récemment les Femmes. La branche parisienne, enfin la branche française des Femmes est à Paris et s'entraîne à faire un camp d'entraînement au théâtre du Lavoir Moderne parisien.
Ouais. D'accord, on situe ce lieu de nouveau donc dans le 18e à Paris, les 14 et 15 février à 19h30. Et puis le 22 février, de nouveau à Paris, cette fois dans le 14e à la Maison du Mexique, à 20h.
Oui, ça c'est la Cité Internationale Universitaire.
Oui.
Et pour les Lyonnais?
Alors, pour les Lyonnais, pour l'instant, on ne va pas vous annoncer les dates, mais vous pourrez voir notre travail et on aura l'occasion d'en reparler à l'automne 2013, sur Lyon et sur Grenoble.
D'accord, ben, du coup, nous on se réjouit. Le spectacle est donc en répétition ici, au TNP, jusqu'au 5 février. Et puis après, il part à Paris pour être pris ensuite en automne, ici et en région Grenoble. D'accord.
Se alborota y le tienen que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, chiquilla? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por la calle? Se alborota y le quieren que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Zapatitos, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó?
Donc voilà, on est toujours sur Radio Canu avec le Théâtre de la Gamelle et aujourd'hui on était en carte blanche avec Anaïs Sintas et la compagnie Les Montants du Temps. On présentait le spectacle Le Ciel dans la Peau. Donc qu'est-ce que c'est les Montures du Temps finalement, puisque tu es tout le temps à la radio mais on parle peu de la compagnie?
C'est très drôle. Non, c'est très drôle de se retrouver de l'autre côté là. Les Montures du Temps, c'est une compagnie de théâtre villeurbanaise qui existe depuis 2003, ce qui signifie que cette année, on va fêter les 10 ans de la compagnie. Donc à l'automne 2013, en octobre plus précisément, vous aurez, j'espère, l'occasion d'assister en fait à une semaine de festivités pour fêter ça. Avec une reprise de plusieurs spectacles de la compagnie et puis ceux qui sont en création, parce que donc on est en création avec Odile Lauria sur Le Ciel dans la Peau et on a une nouvelle création sous le coude là qui est en cours. C'est des poèmes de Paul Celan, qui est un poète roumain d'origine juive, qui sont interprétés et lus par Camille Régnier-Villard et accompagnés en fait au violoncelle de Amaryllis Jarsic. Donc c'est une sorte de récital voix, poésie, musique. Et vous pourrez le voir un peu en avant. Vous n'avez pas besoin d'attendre les 10 ans de la compagnie pour le voir. Ça sera au Goethe Institut au mois de mai et au Centre de la Résistance et de la Déportation aussi au mois de mai.
D'accord. Et sinon, donc les thèmes peut-être abordés par la compagnie Les Montres du Temps.
Ah bah. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est effectivement du théâtre qui est toujours engagé, qui parle souvent des questions des violences faites aux femmes, mais pas que. La dernière création, c'était un spectacle sur Louise Michel, Rosa Luxembourg et Angela Davis, un spectacle qui s'appelait Cerises et Grenades. Mais on a aussi un Dario Fo, Franck Aramé, Une femme seule qui tourne encore et qui marche bien, qui se joue notamment en appartement aussi. Et puis voilà, c'est une compagnie qui fonctionne, qui continue à jouer, donc ça fait plaisir.
les prochains rendez-vous, c'est à Paris, et puis après en mai, et enfin les 10 ans, ouais. En octobre prochain. Donc ensuite, on va passer à la chronique qui est donc donnée par Clara Fustier sur un spectacle Que faire qui se joue au Théâtre de la Croix-Rousse jusqu'à demain soir. Voilà, je laisse la parole au spectacle.
Vous avez bien entendu, c'est une reprise de Nina Hagen, brillamment interprétée par l'actrice de Que faire ? Que faire ? Comme disait Lénine en 2002.
1902.
Toutes mes excuses. Je reprends. Que faire ? Comme disait Lénine en 1902, effectivement. Que faire ? C'est la question que se posent deux sexagénaires ex-68ards dans leur cuisine. Le dilemme, trier leur bibliothèque en fonction de leurs principes, leur éthique, leur vision du monde. Prudhon a écrit une chose et son contraire, on jette. La Révolution française a imposé l'exploitation salariale au profit de la bourgeoisie, on jette. Et malgré le totalitarisme de la Révolution russe, on garde le capital. De A à Z, vous apprendrez à cuisiner et pourquoi le carré noir sur fond noir de Malevitch n'est pas, une case vide pour les mots croisés. Les rires ont fusé hier soir au Théâtre de la Croix-Rousse qui propose depuis le 15 janvier et jusqu'au 26 cet excellent spectacle de Benoît Lambert. Le montage de texte est de ce dernier et de Jean-Charles Masséra. Et même si parfois quelques détails de forme sont assez consensuels, comme l'utilisation systématique des noirs à la fin de chaque tableau, Odile Laquies, la performance des acteurs, François Chaillot et Martine Schambacher, et le propos engagé nous ont fait aimer et nous font recommander ce spectacle. Mais le mieux, c'est encore de laisser la parole aux spectateurs.
Le début c'est pareil, ça m'a vraiment plu, mais la deuxième partie j'ai trouvé un peu compliqué à suivre quand même. C'était un peu long, les textes, tout ça, mais en général les effets, du lycée Albert Camus, nous sommes du lycée Sassurant.
Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du spectacle?
Magnifique. Non. Magnifique. Magnifique, c'est un hommage à la vie.
Un très beau spectacle, très gay. Universel, très bien enlevé, des bons acteurs, un texte sympathique,
un texte
profond, mais sous une forme beaucoup très légère. Et vous?
On fait un exemple que le théâtre peut vraiment avoir totalement sa place pour tenir un discours pertinent par rapport à la société. Et ça sera un très bon outil pour nous rappeler qu'il ne faut jamais baisser les bras.
Bravo! Ça m'a plu?
Oui.
Ça m'a beaucoup plu. J'étais assez surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à que ça soit un peu absurde, aussi révolté, aussi révolutionnaire. Je m'attendais à une pièce plus poétique en fait. De ce point de vue-là, ouais, je suis assez surpris, mais j'ai bien aimé. Mais disons que, sans parler de théâtre, c'est vrai que arriver comme ça du monde extérieur et entrer dans cette salle et découvrir cette pièce, ça fait quelque chose. Quoi, parce qu'on se dit, on sort du train quotidien, on est vraiment bouleversé par une puissance scénique, par une puissance de jeu des acteurs, par une puissance du texte et aussi par une puissance politique, parce qu'il y a tout ça derrière. Et ça fait réfléchir, quoi. On se dit, ça fait réfléchir, et en même temps, on se dit, mais quel est le sens à donner à notre vie, quoi. C'est la question, c'est ça qu'il y a derrière, quoi. C'est derrière derrière notre petite vie, du confort matériel, une petite ambition, une petite carrière, bah, est-ce que finalement tout ça a son importance, comme on voudrait souvent nous faire croire?
On garde, donc.
Oui, on garde.
Voilà, alors contrairement à ce que la prise de son laisse entendre, ce spectacle n'est pas joué sur Mars. Il est joué au Théâtre de la Croix-Rousse jusqu'au 26 janvier. Voilà, il s'appelle « Que faire ?» et c'est un spectacle de Benoît Lambert. À voir, a priori. J'en profite pour passer quelques annonces sur d'autres spectacles à voir sur Lyon ces temps-ci. Alors tout d'abord, un premier qui est proposé par le collectif BIS et mis en scène par Julien Michel, notre présentateur du jour, et qui s'appelle Stalking. C'est un spectacle sur le harcèlement contemporain et ça joue encore ce soir et demain au Théâtre des Ateliers. Ce soir c'est à 20h et demain à 15h. Voilà, Stalking, à voir. Et un autre spectacle dont les Lyonnais pourront profiter et il faudrait qu'il le fasse, qu'on recommande chaleureusement, un spectacle qui a tourné à la fois en appartement et dans des théâtres depuis déjà un an et qui est un vrai bon moment, c'est En même temps, un texte d'Evgeny Grishkovets et un jeu et une mise en scène de Florent Fichot. C'est en ce moment au Théâtre du Fou. Du jeudi au dimanche, cette semaine et la semaine prochaine. La semaine, c'est à 20h30 et le dimanche à 18h. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de voir ce spectacle, profitez-en.
C'est où le Théâtre du Fou ?
Le Théâtre du Fou, en plus, c'est juste à côté des locaux de Radio Canu, c'est pas loin de la place Satonnet, rue Fernand Ray. Deux rue Fernand Ray. Voilà. Okay. Donc à voir du 24 janvier au 3 février.
Ok, merci. Et donc on se retrouve vendredi prochain à 13h pour une prochaine émission.
Sur le spectacle Jeune Public animé par Marion Grenier.
Voilà. Et vous pourrez nous suivre encore sur Facebook et avoir le podcast de cette émission sur le site internet du Théâtre de la Gamelle. Une bonne journée à vous et à très vite.